Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM avec un week-end qui commence déjà pour certains, on l'espère, et pour tout le monde. Pourquoi pas, hein, y en a qui travaillent demain, peut-être et encore après-demain. Mais en tout cas, on pense à eux. Et ce soir, comme d'hab, le standard vous est ouvert durant une heure. Vous pouvez réagir avec toute l'équipe de Time Sport au 01 53 48 3000. Au menu de cette émission ce vendredi, un retour sur les résultats mitigés pour nos clubs français, sans oublier les débordements d'hier soir du côté de l'Orange Vélodrome, le derby du week-end tant attendu avec Saint-Étienne-Lyon, la cadence infernale pour Pep Guardiola et ses hommes en 7 jours, et enfin Deschamps de plus en plus critiqué. Place au JT Sport de Dyson. Gogo Time Sport.
Time Sport.
Bonsoir à tous, on commence ce JT par une bonne nouvelle. La France conserve sa 5e place au classement UEFA avec un total de 46,415 points devant le Portugal, 45,216 points. Bamba Dieng convoqué par Aliou Cissé en équipe du Sénégal. L'attaquant marseillais de 21 ans se voit donc récompensé de son superbe début de saison. Bouna Sarr également va connaître sa première sélection avec les Lions de la Teranga. Des nouvelles de Sergio Ramos qui pourrait encore retarder ses débuts au Paris Saint-Germain. L'ancien Madrilène n'a pas participé à l'entraînement du jour et manquera sans doute le match face à Rennes dimanche après-midi. Enfin, un autre Espagnol, Xavi, lui aurait obtenu, selon un sondage auprès des supporters du Barça, la majorité des voix pour être le successeur de Ronald Koeman, plus que jamais menacé sur le banc catalan. C'est tout pour ce soir, en vous souhaitant comme toujours une bonne émission en compagnie de Bilal et toute l'équipe Time Sport sur Beurre FM.
Et voilà, et ce soir avec moi, mis à part Jason, on aura qui ? On aura Alisson, sans oublier le coach Tollé, mais aussi Viknesh. Bonsoir Viknesh.
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde, ravi de terminer la semaine. En plus, on a une bonne actualité avec Jason qui a bien récapitulé, c'est super.
Ah ben c'est super cela, en revenant. Allez, c'est sa rentrée radiophonique, c'est Samir qui est avec nous ce soir. Comment ça va Samir ?
Salut Bilal, bonsoir à tous. Bah, c'est un plaisir d'être ici et puis impatient de débriefer le... La petite querelle OM Galatasaray.
Aïe, 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 allez, c'est parti, le premier sujet de cette émission.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Eh oui, comme le disait Samir, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, cela a été très chaud entre l'Olympique de Marseille et le Galatasaray ce jeudi soir dans le rang entre des Marseillais, l'Orange Vélodrome. On le rappelle, le score, 0-0. Un bel OM, mais peut-être aussi du grabuge dans les tribunes, malheureusement, encore une fois, Samir.
Bah, c'est dans la continuité de ce qu'on voit en ce moment, dans les stades, malheureusement. À qui la faute ? Ça, c'est une très très bonne question.
Ouais, en parler en
c'est
plus.
C'est toujours ça la question, en fait, à qui la faute ?
Ah bah, il y a toujours, hein.
Voilà. Sinon, si on peut parler un peu du résultat sportif, bon, ouais. Résultat mitigé, oui, décevant, oui. Pour quelle raison ? Puisque on sait que l'Olympique de Marseille cherchait la victoire à domicile. Ils ont un déplacement à la Lazio lors du prochain match. Et malheureusement, s'il y a défaite, ça risque d'être très compliqué.
Ça va être assez costaud, en tout cas.
En ayant que deux points sur 9 possibles. Sachant que Galatasaray ont gagné leur premier match. Donc, ils peuvent peut-être prendre de l'avance sur l'Olympique de Marseille. Néanmoins, la qualité du jeu de l'OM n'est pas mauvaise. Donc, ouais. C'est ce qui est décevant. C'est que l'Olympique de Marseille à domicile, normalement, c'est victoire. On l'a surtout vu en seconde période. Marseille a dominé, mais largement les débats. Mais malheureusement, il manquait ce qu'il y avait de plus important dans le football, marquer un but.
Mais c'est ça, marquer un but, ça va quand même de mieux en mieux. Certains se trouvent un peu, diront que voilà, ça reste mitigé. Mais non, ça va de mieux en mieux pour la France. Un indice UEFA grâce aux performances, notamment de l'Olympique Lyonnais, il faut le rappeler, et aussi du Paris Saint-Germain, Samir et Viknesh. Ouais.
Bah là, oui, voilà, sur 12 matchs depuis le début de la saison, on a 11 matchs où les Français n'ont pas perdu ou ont gagné. Donc ça, c'est bien. Il y a juste une seule défaite. Avec une seule défaite, du coup, donc ça va. Donc globalement, le football français se porte bien. On va dire ça comme ça, mine de rien. Mais il y a quelques déceptions. Bon, on a parlé de Lille en Ligue des Champions. Mais hier, oui, Marseille, sur le terrain, a été bon, a été efficace. Au niveau du jeu, ils étaient au rendez-vous. Mais comme a dit Samir, c'est l'efficacité qui manque. Parce qu'ils ont eu les occasions, ils ont eu les opportunités. Mais Conrad de la Fuente, Wunder, même Payet, Milik, quand il est rentré, ils sont là pour faire la différence et marquer. Et ça, ils n'ont pas su faire sur le terrain. Après, comme d'habitude, Marseille a eu des excellents moments, ouais. Une très bonne période, mais à des moments où ils ont été absents. C'est ça qui leur porte préjudice. Ouais. Parce qu'ils auraient pu perdre aussi, mine de rien. Bon, Galatasaray n'a pas eu énormément d'occasions non plus. Mais Marseille, ils doivent faire la différence. Et quand ils ne le font pas, ça fait 3-4 matchs. Bah, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule victoire. Donc c'est peut-être à bout de souffle le projet Sampaoli, c'est une question que l'on peut se poser. Mais moi je pense pas, parce qu'au niveau du jeu, ils sont là, ils font du jeu, ils produisent du jeu, les joueurs ils sont là et ils s'éclatent sur le terrain. Donc moi je pense que non, ça peut le faire encore pour Marseille.
Ce qui
est inquiétant, effectivement, bon, sur par rapport à l'indice UEFA, c'est super, tout ce qu'on veut, etc. Mais ce qui peut être inquiétant, c'est l'engagement que les clubs français vont avoir vis-à-vis justement de cette compétition européenne.
Ouais.
Sur le long terme,
on parle à chaque fois.
Est-ce que réellement ils ont envie d'aller au bout? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ces clubs français d'aller au bout? On sait qu'il y a la Coupe d'Afrique qui arrive en milieu d'année. On sait qu'on va perdre des joueurs. On sait que l'enchaînement des matchs crée des blessures, fatigue les joueurs, te fait perdre des points pour le championnat. Est-ce que c'est l'objectif prioritaire des clubs français? Ça, je ne sais pas.
Et justement, peut-être on aura la réponse avec le coach Tollet. On en parle à chaque fois, Samir. C'est bien que tu pointes cela sur cette envie. Vous voyez, cette grinta, comme le dit notre confrère Omar Da Fonseca, le coach Tollet, justement, ces clubs français en Europa League.
Ouais, la différence. Ouais. Bonsoir tout le monde. Samir a raison. Quand on regarde la statistique, nos résultats sur les 10 dernières saisons, c'est une catastrophe. T'as eu quoi? T'as eu Lyon qui a dû faire une demi un quart, t'as Marseille qui a été en finale. Mais sinon, tu passes à peine le premier tour. Les clubs français nous font découvrir des clubs à travers l'Europe, des équipes improbables avec des joueurs au nom improbable. Maintenant, cette année, on te parle quand même de Lyon, Monaco et Marseille. Donc j'ai envie de te dire. J'espère qu'avec ces cylindrés-là qui font partie des plus importants de notre championnat, elles vont pouvoir jouer le jeu. Sinon, je ne vois pas à quoi ça sert. Après, ouais, j'ai quand même bon espoir au vu de la qualité de nos équipes cette saison. J'espère qu'ils inverseront la tendance.
Avec Neige, Samir.
Moi, justement, alors, je pense que cette année, c'est bien pour les clubs français.
Parce ouais,
que
pour déjà, Lyon aussi.
Oui, parce que même Lyon, surtout Lyon. Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'on a trois entraîneurs qui sont étrangers. Et à l'étranger, ils n'ont pas une philosophie comme les entraîneurs français. Ils disent, ouais, on va choisir la Ligue 1, c'est plus important. Le championnat, c'est le domicile, etc. Eux, ils veulent jouer tous les matchs. On voit Peter Bosz, Niko Kovac, ou même Jorge Sampaoli. Ils ont pas mal de joueurs. Ils ont pratiquement doublé leur poste, justement, pour disputer la compétition européenne. Et on sait très bien que Lyon et Monaco, entre autres, ils ont deux équipes, ils ont des très bons joueurs. Ils ont ouais, entre 15 et 16 bons joueurs qui peuvent interchanger tranquillement. Donc je pense que oui, les clubs français, ils doivent jouer l'Europa League et ils peuvent aller faire un bon petit parcours sympathique.
Viknesh, c'est vrai, ouais, mais on a le contre-exemple avec les matchs de barrage en Champions League que l'AS Monaco a joué contre le Shakhtar. Tu as vu que le début de saison de Monaco a été mauvais en championnat. Et je pense que les joueurs ont été perturbés justement par cette double confrontation avec le Shakhtar. Leur a fait perdre de l'énergie et je ne sais pas si la mentalité française te permet d'être autant concentré en Ligue 1, autant concentré en compétition européenne. Il y a 15-16 joueurs, mais est-ce que c'est assez pour tenir autant de matchs sur la saison? C'est là-dessus où moi j'ai des doutes. Hier, oui, on l'a vu qu'au Vélodrome, dans un club comme l'Olympique de Marseille, où tu as la chance d'avoir un 12e homme, tous les matchs, tu les joues à fond parce que de toutes les façons, avec un public pareil, tu peux pas tricher. Ouais. Donc pour un club comme l'Olympique de Marseille, l'engagement, t'es obligé de l'avoir. Et malgré tout, ça fait 0-0. Donc j'ai des doutes en fait sur la régularité des joueurs, des clubs, et puis les coachs, ils ont beau être étrangers, mais on reste en Ligue 1.
Ouais.
Mais après, ça reste une autre stratégie, une autre façon de voir les choses, le football. Parce que déjà, les trois clubs en question proposent du jeu. Ils ont une stratégie qu'ils mettent en place. Les entraîneurs, ils ont une philosophie de jeu. Ça, c'est intéressant. Ils arrivent à s'adapter plus ou moins aux adversaires. Ils ont assez de joueurs. Donc, pour moi, il n'y a pas une excuse de oui, on n'a pas assez de joueurs ou on n'a pas de joueurs qui sont assez talentueux. Non, pour moi, cette année, il n'y a pas d'excuse. Lyon, Monaco et Marseille, ils ont des très bons joueurs. Juste le milieu de Lyon, il est incroyable. Même Marseille, c'est très bon. Monaco, c'est bon aussi. Donc là, on ne peut pas sortir sur des excuses. Pour moi, les trois, sachant que Lyon est la première équipe en indice UEFA en Europa League, eux, ils ont des ambitions. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils ont des ambitions, ils ont des objectifs pour aller le plus loin possible. Et ils doivent en fait. Ils n'ont pas trop le choix non plus. Et Monaco-Marseille, moi je suis désolé. Monaco, ils n'ont pas changé d'effectif par rapport à l'année dernière. Ils ont juste apporté quelques modifications, ce qui a été nécessaire. Et Marseille, bon, on n'en parle pas parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés, genre ils sont pas liés, etc. On sait très bien. Donc pour moi, les trois clubs en question, ils doivent faire un beau parcours. Il y a pas, enfin pour moi, il n'y a aucune excuse. Certes, on a un club français, on n'a peut-être pas l'habitude, mais comme a dit Claude, on n'a pas énormément d'épopées en France. Donc c'est l'occasion jamais. Et chaque fois, on parle de la Ligue Europa qui est le révélateur pour montrer la compétitivité des championnats. Bah, si on veut montrer qu'on est un bon championnat, bah, c'est l'occasion jamais. Pour moi, je trouve en tout cas.
Ah oui.
Il y a la place en tout cas avec ces cylindrés qui, faut pas l'oublier, vont être amenés derrière le PSG à jouer les places en Ligue des Champions, deuxième, troisième, et Ligue Europa, enfin surtout les deuxième et troisième places. On verra sur la durée. Samir a raison, Viknesh aussi. Après, j'ai quand même bon espoir parce que t'as trois effectifs de grande qualité. Maintenant, il y a la mentalité française. Même si t'as des coachs étrangers, t'arrives dans un environnement.
Elle pose problème peut-être cette mentalité.
Quand tu vois les stats sur les 10 dernières saisons, il y a un problème. Hein. Ils nous ont fait découvrir des clubs. Merci. Hein.
Je suis pas contre vos arguments. Simplement, que ce soit Monaco ou Lyon, les deux clubs ont des bons effectifs, c'est vrai. Mais l'Olympique Lyonnais, moi, ça fait quelques années que leur effectif, je le trouve pas mal du tout. En tout cas, pour l'Europa League, ça fait un moment qu'ils ont un bon coup à jouer dans cette compétition. Et la seule vérité, c'est quand tu la gagnes, quoi. Et jusqu'à aujourd'hui. Là, j'ai entendu, je crois, c'est Viknesh qui le disait, c'est l'année ou jamais. Mais effectivement, ça fait tous les ans qu'on dit c'est l'année ou jamais. Ça serait bien qu'à un moment, ce soit vraiment la vraie année, quoi.
La réalité, c'est que t'as les troisièmes de Ligue des Champions qui sont renversés. En général, t'as toujours quelques gros cylindrés qui ont pas forcément réussi leur campagne et qui montent en puissance ensuite en deuxième partie de compétition. Ça, et puis, faut pas oublier, on l'a jamais gagné, hein. Anciennement Coupe UEFA, Ligue Europa. Ouais. Voilà, hein.
Cette coupe de...
ça en dit long aussi sur la mentalité, sur...
Bon, ça va.
On dit souvent le championnat de France fait partie du top 5. Ouais, mais la réalité, elle est là en termes de stats, on est très très loin. Hein.
C'est pour ça que je te parle du Monaco Shakhtar, parce que Shakhtar, ça peut-être être un club qui va être, tu vois, en Europa League en deuxième partie de saison, ou peut-être pas. Mais bon, le niveau du Shakhtar en général, voilà, c'est équivalent. Enfin, pour moi, un Monaco et un Lyon, c'est mieux qu'un Shakhtar. Enfin, ça reste que mon avis. J'ai pas la science infuse. Mais pour moi, c'était pas un vol. Si Monaco sortait le Shakhtar, c'était pas un vol. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et tu vois que contre le Shakhtar, tu passes pas. Comme tu l'as bien dit. Tu vas avoir des clubs qui vont arriver en deuxième partie de saison, qui eux auront joué les plus grands d'Europe, qui seront peut-être plus prêts mentalement, qui joueront peut-être des compétitions, enfin des championnats un peu plus compétitifs avec des gros clubs, et qui seront peut-être plus prêts que toi à jouer cette compétition, en tout cas dans la régularité sur le long terme.
Oui. Viknesh.
Après, c'est le cas chaque année. Donc moi, je pense que même s'il y a des grands clubs, enfin justement, en fait, ça doit motiver Lyon entre autres, parce que là, on parle de Lyon précisément.
Ça va, Lyon aussi, c'est un grand club.
C'est ce que j'allais dire. Lyon, c'est censé être un grand club.
Lyon, c'est un grand champion. J'aime beaucoup leur équipe,
c'est
vrai.
C'est ça, ils ont très. Moi, je trouve qu'ils ont surtout le milieu de terrain. Moi, je le trouve très bien, très efficace et très performant. Donc Lyon est censé être un club qui joue la Ligue des Champions. Là, ils jouent l'Europa League. Donc ils doivent la gagner. S'ils veulent faire un beau parcours en Ligue des Champions par la suite, ils doivent montrer qu'ils sont présents en Europa League et faire un beau parcours. Et justement, si les troisièmes de pôle de Ligue des Champions arrivent en Europa League, ça doit motiver les joueurs lyonnais et les staffs techniques et toute l'équipe, justement, parce que ça reste des grandes équipes. Ils veulent s'affronter, ils veulent jouer contre des grandes équipes. Ce sera l'occasion pour eux de voir leur niveau et montrer qu'ils peuvent éliminer des grandes équipes.
Moi, je vais te dire un truc concernant l'Olympique Lyonnais.
Alors, c'est quoi, Samir ? Dis-nous.
Concernant l'Olympique Lyonnais, j'ai vraiment beaucoup plus confiance en Jean-Michel Aulas qu'aux joueurs. Lui, je sais qu'il veut la gagner. Lui, je sais qu'il veut aller le plus loin possible. Et je pense qu'il fait partie des personnes dans l'organigramme du club qui peut-être comprend ce que ça peut être la victoire en Europa League, ce que ça peut donner comme image pour l'Olympique Lyonnais, pour la ville, pour la France, pour l'image de la France en Europe. Je pense que lui le comprend. Mais est-ce que tout l'effectif le comprend? Ça fait plusieurs saisons que malheureusement il se trompe avec le coach qu'il a mis en place. Aujourd'hui, ok, individuellement on peut dire que l'Olympique Lyonnais a des bons joueurs, mais collectivement on peut pas dire que la mayonnaise elle a pris à l'Olympique Lyonnais. Alors certainement on a des raisons d'être optimiste dans l'année, mais est-ce que les joueurs ont la mentalité de Jean-Michel Aulas? Ça je sais pas. Lui il est dans le club depuis toujours, pas les joueurs.
Alors justement, faut travailler peut-être. Et aussi, pour gagner une Coupe d'Europe, Samir, il faut un effectif bien huilé, bien rodé. Regardez les vainqueurs de chaque Coupe d'Europe. Ils n'ont pas gagné par hasard. Ouais.
T'as déjà perdu Memphis Depay.
C'est pas là qu'il
nous
dit ça.
Et puis, t'as un état d'esprit.
Aussi.
Il l'a dit, Jean-Michel Aulas, c'est son club. En exemple, les joueurs, ils passent, ils restent, ils sont performants ou pas. Et puis, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ils peuvent partir. Fallait a raison. Mais c'est un état d'esprit avant tout de gagner qu'il faut ça. Tu gagnes pas une Coupe d'Europe à pile ou face. Hein. Ça se prépare, ça se travaille, c'est sur plusieurs années.
C'est comme français, Alisson en Europa League, ouais, quelquefois un peu mitigé, certaines soirées d'Europe, européenne plutôt. Là, ça va. On a vu le PSG, on a vu Lyon. Bon, Marseille un peu mitigé hier, on va dire. On va reparler de ces grabuges, aussi de ces petites querelles en tribune et même sur le stade. Mais ça va, on est bien ou on n'est pas bien?
Bonsoir à tous. Ouais. Déjà, je pense que cette année, on est un peu mieux que les années précédentes. On voit, vous avez parlé, je vous écoutais dans ma voiture, vous avez parlé d'effectifs. Et effectivement, c'est important d'avoir un effectif plein, je dirais, c'est-à-dire des doublures à quasiment chaque poste, si on le peut. À l'Olympique Lyonnais, Samir le disait, ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. Le Paris Saint-Germain, on sait que voilà, c'est une armada, c'est un mastodonte. Donc, je pense que... en ce qui concerne la Champions League, ils peuvent aller au bout, en tout cas sur le papier. Ensuite, quand on joue les matchs, c'est une autre histoire. Mais là, pour l'instant, ils sont bien partis. Et en ce qui concerne Marseille, c'est ça. Il manque toujours ce petit quelque chose pour passer au niveau supérieur. Cette année, on a la chance de voir un Marseille qui joue bien. Un Marseille qui propose un fond de jeu. Un Marseille qui propose du jeu. Mais il manque quelque chose. Il manque une attaque. Il manque un Milic qui revient. Il manque des tueurs devant. On a un Payet qui revient bien. Mais il manque voilà quelque chose pour passer au niveau supérieur. Mais quant à l'état d'esprit, effectivement, c'est très franco-français. En France, on veut pas gagner, mais on ne veut surtout ne pas perdre. Voilà. Donc, je pense que quand on franchira ce palier où on sera un peu arrogant et on dira cette coupe, on veut aller au bout, on veut la soulever parce qu'on a les capacités d'eux, et ben là, on ira au bout de toutes ces grandes coupes européennes.
Je rejoins Issa, on a le sentiment que la motivation est d'ordre financier, ce qui est une triste peut-être réalité aussi par rapport à la Ligue Europa, mais on a le sentiment que, peut-être pas sur cette saison, mais que tu ne veux pas jouer la Ligue Europa, du moins tu ne la joues pas à fond, alors qu'il y a peut-être moyen toujours de réaliser un coup, que tu veux jouer la Ligue des Champions, sauf qu'en Ligue des Champions, t'as qu'un club qui survit, c'est le Paris Saint-Germain. Le reste, tu fais 6 matchs, merci, au revoir. Donc il y a un moment, ne serait-ce pour le prestige, mais ça c'est une question pour moi de mentalité. Hey, les gars, jouer la Coupe d'Europe, jouer la Ligue Europa à fond, quoi, tu joues le jeudi soir. Qu'est-ce qu'il y a?
On est content de jouer la Ligue Europa parce qu'on sait justement, tu le dis Claude, que la Ligue des Champions est entre guillemets inaccessible et donc la Ligue Europa, c'est le moyen de se montrer sur la scène européenne.
Et t'ajoutes à ça que si tu gagnes l'Europa League, justement, quand tu veux dans le prochain marché des transferts, t'as envie d'attirer des joueurs, et ben quand t'as gagné l'Europa League, tu seras plus à même d'attirer des joueurs que quand t'as fini je ne sais combien, tu t'es fait éliminer à je ne sais quel tour. Et juste pour en revenir à l'Olympique Lyonnais, depuis tout à l'heure on pointe beaucoup l'excellent milieu de terrain qui est une réalité, et ça c'est une vérité, ça de toutes les façons tout le monde le remarque, sauf que un collectif c'est 11 joueurs, c'est une défense, c'est une attaque, et que depuis le début de saison en Ligue 1, bah, l'Olympique Lyonnais ça a pris 12 buts et qu'il faut pas qu'un milieu de terrain justement pour aller le plus loin possible dans une compétition très importante. Et comme Claude l'a dit, il va y avoir des grosses cylindrées en deuxième partie de saison, donc si t'as déjà pris 12 buts en Ligue 1, tu vas en prendre combien contre les meilleurs d'Europe?
Pourquoi pas. Allez, si on reste avec nous, avec le coach Tolé, Samir et Viknesh, on entamera encore le sujet sur les supporters et ses débordements, sans oublier le derby AS Saint-Étienne contre l'Olympique Lyonnais. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie du coach Tolé, d'Alisson, de Samir et sans oublier Viknesh. Allez, on prend le chemin du côté de Marseille, la Canebière.
Time Sport. Le duel. Le duel.
Les plages du Prado. Plutôt. C'est ça, c'est juste à côté de l'Orange Vélodrome, c'est bien ça. Ah, Claudie, il connaît très très bien. Eh oui, les soirées assez brûlantes en tout cas. C'était pas en été, mais c'était bien hier soir. La soirée, les débordements, des incidents ont eu lieu, eh oui, entre supporters de l'OM et ceux de Galatasaray dans un stade Vélodrome plein à craquer quand même.
Ce qui est dommage, alors, c'est que... alors, on parlait de la Ligue Europa, qui est un petit peu négligée.
Ouais.
Là, on peut pas remettre en cause la ferveur du football, c'est que à Marseille, enfin voilà, Ligue Europa, Ligue des Champions, t'avais 50 000 personnes hier, donc t'as tout pour avoir de belles soirées européennes. Moi là, ce qui m'inquiète, c'est que au-delà de ce qui s'est passé hier, c'est que j'en vois un petit peu trop. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de débordements de la part des supporters, que ça soit en Europe et en France. Et moi, ça me rend triste parce que je ne me reconnais pas dans ce type d'attitude. Et ce qui me rend d'autant plus triste et énervé, c'est que t'as tellement de gens qui tapent facilement sur le football et t'as des abrutis qui valident cela, c'est-à-dire que on nourrit un petit peu ça et c'est détestable. Enfin, c'est le match pour moi aurait même pas dû reprendre.
Ouais.
Alors de la même manière, de la même manière, tu sais que tu as des championnats, des coupes d'Europe entre les clubs. J'ai l'impression qu'il y a une rivalité aussi entre clubs de supporters de clubs. Qui va être les supporters les plus chauds d'Europe? On va aller tester les plus gros publics. On va aller se frotter à eux. On va montrer qu'ils nous font pas peur. Et même nous, on va jouer un match dans les tribunes. Et il y a un truc qui est triste. Alors, je suis pas là pour stigmatiser quoi que ce soit ou dire que c'est la faute de un tel ou de un tel. Mais les pauvres Marseillais, quand même, après Nice, après Angers, ouais. Galatasaray, mais ça fait beaucoup
à
maintenant.
Fois,
là.
Ouais.
Ça tombe beaucoup sur l'Olympique de Marseille.
Ouais.
Enfin, je sais pas, les travails de communication, ils font quoi? Les présidents de club, qu'est-ce qu'ils foutent? Je vais revenir rapidement sur un événement qui avait eu lieu entre Nice et Marseille. Quand tu vois que le président de l'OGC Nice, pour garder sa belle image dans sa ville, etc., qui limite, t'as l'impression qu'il est en train de défendre les supporters, ou à l'inverse, s'il les défend pas, de ne pas les enfoncer un peu plus. Quand t'es président de club, non, même si dans ta famille, il y en a qui foutent de la merde, eh ben, faut les sanctionner et faut leur dire, ouais. Et faut pas les défendre. L'indéfendable n'est pas défendable. Et, ça devrait être la même chose dans tous les clubs. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des sanctions lourdes qui sont trouvées. À la fin, ça fait des morts. J'ai encore lu des articles où il y avait des bagarres. À la sortie du stade Vélodrome, il y a eu des incidents. C'était pas fini. C'était pas que dans les tribunes. C'était même après le match. Mais en fait, ton fils, il va dans la tribune, il va supporter son club et peut-être qu'il va jamais revenir pour un match de football d'Europa League où il y a 0-0.
Incroyable.
C'est n'importe quoi.
Incroyable. Et justement, on en parlait cette semaine avec Fala ou même encore avec les personnes de Tamsport. Rien de choqué parce qu'on véhicule peut-être cette image de la société à l'heure actuelle, Samir. Oui, Alisson. Oui, c'est vrai qu'on disait que peut-être les gens. On est encore dans la crise sanitaire et que peut-être des gens étaient...
Une excitation
Une excitation
Au contraire.
Mais je suis assez sérieux. Et tu le sais, Alisson.
Non,
et
au contraire. On a vécu des moments difficiles où tout plaisir, justement, était contraint. Où
il
n'y avait
plus
cette notion de plaisir. Et là, le football reprend avec les supporters dans les stades. Donc,
les supporters le demandaient, en plus.
Non, mais justement, il faudrait faire preuve d'humilité, redescendre un petit peu, que toute cette testostérone redescende et qu'on se tienne bien dans les stades. Et surtout, c'est au président de sévir. Il faut des interdictions de stades à vie, comme on les fait en Angleterre. C'est-à-dire que si les caméras te prennent en train de faire n'importe quoi, tu es banni de tous les stades. Pas que du stade dans lequel tu supportes, pas que le stade de ta ville, dans tous les stades du monde à vie. Et peut-être que ça en calmera certains.
Et puis le paradoxe, c'est ça, Bilal, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on sort, on n'est pas sorti, mais bon, on a traversé une crise sanitaire où on était tous dégoûtés parce que les stades, ils étaient vides.
C'est ça.
On n'avait pas la chance d'avoir les supporters là, on est trop content de les avoir.
Ouais.
Faites la fête, supportez votre équipe, c'est normal. Mais par contre, si jamais vous foutez la merde et qu'il y a des déportements, eh ben, tu vas être, je sais pas, tu vas te manger quoi, 3, 4, 5, 6 matchs à huis clos. Donc on va revivre une période Covid où on était dégoûté de l'avoir. Donc qu'est-ce que tu veux en fait? On n'avait pas la chance de vous avoir au stade. On vous a, et après des incidents, on va vous reperdre. Bah, c'est pas intelligent ça.
Faut sévir.
Le coach de Tolé au Civic Neige concernant ces débordements
plus,
à Marseille.
Plus bête lorsqu'on est en groupe, hein, malheureusement, effet de.
Et mais va savoir, l'histoire d'Europe, comme il a dit, ça vient. Vas-y, comme ça, on passe sur tous les médias.
J'arrive pas à comprendre. Là, j'ai les images de Galatasaray, j'ai les images de Lens-Lille. Aussi, non mais attends, enfin c'est un truc de fou. J'ai le sentiment de voir ce type d'image il y a 15 ans dans des championnats mineurs à travers le monde, ou même limite on en rigolait parce qu'on voyait des surdébordements. Et là c'est en France quoi. Enfin c'est dans nos stades. Samir reparlait de la conférence de presse lunaire, mais moi j'ai jamais vu ça du président de Nice derrière. Mais c'est un truc de. Non mais c'est, on va où là?
Les supporters, ils ont des t-shirts d'extrême droite, c'est n'importe quoi.
Ah, même Yannis, le réalisateur, il comprend pas. Tout comme Vic Neige, ouais.
J'allais dire d'extrême droite.
Quand même.
Non mais oui. Après non, oui, le foot de base, ça reste un spectacle, ça reste un art, ça reste un endroit où on va pour regarder un spectacle, pour se faire plaisir en fait. Et là en fait, ça commence à faire trop. Il y a trop de débordements, il y a trop de bêtises. Et les supporters en fait, à un moment ou l'autre, faut les sévir. C'est simple. À un moment ou l'autre, faut prendre les décisions qu'il faut. Pas sanctionner un groupe de supporters. ou mettre des matchs à huis clos parce que ça sert à rien, parce qu'on sanctionne trop de monde et c'est juste quelques imbéciles, quelques abrutis qui font ça. Après, oui, certes, moi j'avais parlé de ça il y a quelques semaines sur le plateau.
Ouais.
Le fait d'avoir eu le confinement, d'être chez soi, de ne pas sortir, oui, après ça donne des pulsions à certains.
Ah, donc on fait certains. Quoi, on va tous se battre dans la
rue?
Non,
ville, justement, après je dis certains abrutis, ça c'est pas, sont comme ça, c'est pas notre faute, ils sont comme ça. Après, c'est pour ça, pour éviter que ça continue, que ça donne de la motivation et ça donne de la force aux autres, pour pas que ça se reproduise, il faut prendre des décisions et les interdire, ou même, je sais pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des prisons à sursis, etc.
Ouais.
Bah, quand c'est à l'extérieur du stade, là, on peut se permettre de mettre de la prison ou quoi que ce soit. Mais quand on peut,
surtout ça fonctionne pas ce genre de truc. On l'a vu à la Coupe du Monde ou à l'Euro, les supporters russes avaient des interdictions de stade, avaient de la prison avec sursis. Ils passaient par d'autres moyens, des marchés au noir, etc. Ils étaient quand même dans les stades ou alors ça donnait des bagarres à l'extérieur. Donc ces notions là de mettre de la prison avec sursis, de huis clos, etc. Ne fonctionnent pas.
Ouais.
Il faut retirer des points.
Ouais.
Retirer des points, ça ferait mal aussi.
Retirer les points à la base du supporter. Pourquoi il vient? Les supporters de Galatasaray hier, ils viennent pourquoi? Quel est l'intérêt de traverser l'Europe pour aller au Vélodrome? Il y a un moment, tu fous bordel, ben on va sanctionner ton club.
Bah oui.
Point barre.
Ouais, mais on l'a déjà vu ça.
Il faut accentuer. Mais limite même exclure le club s'il le faut de la coupe d'Europe ou d'une. Mais j'en sais rien, mais.
Ils prennent des décisions aussi. Bah oui. Que font-ils? Ils sont là, ils regardent, il se passe ça depuis quelques temps. Ils ne font rien. Les présidents de club, voilà, ça fait des conférences de presse en disant oui, mais bon, peut-être on veut pas se mettre les supporters à dos, mais à la fois on dénonce ce qui se passe, les débordements. Donc il faut saisir, il faut prendre des décisions. Voilà, faut être grand et prendre des décisions. Pour que ça, ce ne soit pas un phénomène qui dure, que ce soit un épiphénomène, voilà, on en parle aujourd'hui, mais qu'on n'en parle pas dans 6, 7, 8 mois.
Allez, le sujet suivant.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Ah oui, Alison, il ne faut pas l'embêter. Hein.
Ah oui,
elle est très très bien, elle ce sujet-là. On va voir justement. Alison, toujours Tony Truant, tout comme Viknesh, sous pression avant le derby. Alison Puel pousse un coup de gueule. Et oui, en raison d'un début de saison catastrophique, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel, se retrouve présenté sur la sellette, quoi. Et oui, avant ce fameux derby rodanien, ce dimanche, en Ligue 1 Uber Eats. Et oui, Alisson, le coach Tolé, Samir Viknesh.
J'espère qu'il n'y aura pas de débordement.
Là, je suis sérieux.
Tous les matchs sont à risque. Et le vrai derby français, c'est celui-là.
Exactement.
Après, au-delà de... Moi, Puel, c'est vrai que je suis un petit peu... déçu. Après, est-ce que c'est totalement de sa faute quand on voit la SSE qui est en difficulté depuis le départ de Christophe Galtier, mais c'est même au niveau de la direction, et puis on apprend que t'as des investisseurs potentiels, ça vient pas, recrutement poussif aussi, t'as 2-3 pépites qui sortent mais qui partent aussitôt. Moi je pensais qu'il allait vraiment faire du bien à la SSE, que ça allait pouvoir repartir. Il avait choisi lui de mettre de côté les grognards qui étaient venus sous l'ordre de Gasset, qui avait permis à Saint-Etienne d'aller décrocher une Ligue Europa, les Lemvilla, le gardien de but, Debuchy, etc. Il a voulu repartir avec des jeunes. Finalement, ça n'a pas marché. Et là, voir Saint-Etienne, c'est compliqué. Mais même si Puel est amené à partir, moi, j'ai plus peur de l'environnement vert aujourd'hui qui est en grand danger. Hein.
C'est ça, c'est très tendu à l'heure actuelle à Saint-Etienne.
En 8
matchs, c'est quand même 3 défaites et 5 nuls. Donc 0 victoire quand même en 8 matchs, c'est catastrophique. Hein. On peut le dire et tu le dis bien. Ok, si Puel part, d'accord, pas de problème, mais pour qui vient? Qui vient et surtout dans quelles conditions?
Romainière,
c'est alors. Ça. Et quel entraîneur voudra se risquer à reprendre un synthé dans cet état-là? C'est trop. Qu'on le garde, qu'on stabilise et puis qu'il fasse ce qu'il peut faire.
Pour le coup, je suis pas du tout surpris de ce qui se passe à Saint-Etienne parce que ça fait plusieurs saisons qu'il nous montre un petit peu le même visage. Hein. On se rappelle déjà que rien que dans la direction, il y avait déjà des soucis il y a 3 ou 4 saisons de mémoire. Tu le sens aujourd'hui sur le terrain. Puis pour avoir échangé cet été pendant la préparation physique avec un joueur de l'AS Saint-Etienne qui me disait en off clairement, si on se maintient cette saison, c'est déjà un miracle. Alors t'imagines qu'un joueur te dit franco que si on se maintient, c'est un miracle. Je lui dis pourquoi. Il me dit on n'a pas recruté, on n'a pas injecté du sang neuf, on a perdu justement un petit peu de joueurs. Alors, c'est pas parce que je suis algérien que c'est forcément Riyad. Mais Et c'est pas Riyad Boudbouz. En plus, le pauvre Boudbouz ne joue pas, donc il m'aurait encore moins dit ça. Et en plus, c'est un joueur qui joue. C'est un joueur qui joue. Et il est pas du tout surpris parce qu'il m'a dit, on n'a pas recruté. Et puis, puis voilà. Puis aujourd'hui, malheureusement, ça lui donne raison, comme Alisson le dit. Ça fait zéro victoire. Et puis, pour reprendre ce que Claude dit, s'il y a un gros tarif de la part de l'Olympique Lyonnais, j'ai bien peur que si, ça va déborder. En
fait. Si le joueur te dit ça, ça veut dire qu'au-delà du recrutement, ça veut dire que il sent que l'état d'esprit est, bah, il y a rien. C'est que c'est mort. Si les gars sentent ça dès la préparation, c'est qu'ils sentent que ça sera extrêmement compliqué. Je crois que cet état d'esprit-là à Saint-Étienne règne depuis trop longtemps. Et comme le dit Samir, c'est malheureusement pas surprenant de les voir à cette place-là.
Nash. Bah, à force de flirter avec la ligne rouge, à un moment ou l'autre, tu passes en fait. C'est comme Nantes, à un moment, ils étaient comme ça. Et du coup, je pense que moi, oui, Saint-Etienne a un effectif trop jeune, très très jeune. Puel, c'est ce qu'il voulait faire. Mais on se rend compte que malheureusement, il n'a pas réussi. Il ne va pas réussir son pari. Pour moi, Saint-Etienne, ils vont finir en Ligue 2 cette année. Les problèmes de la direction.
Tu vas fort quand même.
Non, avec la présidence à deux têtes, ça fait des années que ça cause problème.
Ouais.
Il y en a un qui veut vendre, l'autre qui ne veut pas vendre. Ils ne sont pas d'accord sur le prix. Donc déjà, ça c'est problématique. Puel, il atterrit comme ça. Il a dit, bon, je vais faire mon truc, mon travail. Je vais prendre les joueurs que je veux. Bah, ça marche pas. On sait que Puel, c'est un formateur. Mais là, je pense qu'il faut pas forcer non plus. T'as quelques bons joueurs à Saint-Etienne, dans les jeunes. Après, il faut pas mettre une équipe avec au moins 8 jeunes sur le terrain. Bah, tu vas pas aller loin avec ça, en fait. Donc, surtout en Ligue 1, tu peux pas te permettre de faire des choses comme ça. Donc, Saint-Etienne, non, c'est décevant, c'est triste. C'est un grand club qui a marqué l'histoire du football français et ça restera un grand club. Mais à un moment ou l'autre, ça fait du bien de passer dans les divisions inférieures pour te refaire.
C'est un scandale, mais il faut y passer à un moment ou l'autre.
Mais il y a plein de clubs, on a dit ça. Et après, on se rend compte, bah, comme Nantes, finalement, j'ai pris cet exemple. Ça reste un grand club. Et ils ont fait ça. Et bon, là, c'est pas mieux. On va pas dire ça non plus. Mais ils sont passés en Ligue 2. Et je pense que Saint-Etienne, ou même Bordeaux, on n'a pas parlé, mais même Bordeaux, c'est la même situation. Donc il y a des grands clubs qui sont en danger. Et après, ça reste à la direction de faire du bon travail.
Le souci à Saint-Etienne, et ce qui m'attriste, c'est que, voilà, là, c'est le passionné de football hein, qui parle. Tu vois, j'aime bien, moi, les clubs avec beaucoup de ferveur, genre Marseille, Lens, Saint-Etienne, avec les gros publics. Moi, j'ai envie de les voir en Ligue 1. On en a besoin. Tu vois,
bien sûr, tu vois,
Guichard blindé, bah, tu kiffes. L'ambiance, elle est bien. Et voir ce club-là en Ligue 2, ça va m'attrister d'une pour les supporters. Mais de deux, c'est que si déjà en Ligue 1, il s'est passé ce qui s'est passé, ça peut être la descente aux enfers ensuite par la suite. Hein. Tu sais que tu remontes pas automatiquement la saison d'avant. La Ligue 2, c'est pas non plus le carnaval, tu vois. Donc pour remonter la saison d'après, c'est pas si simple. Et au contraire, tu descends en Ligue 2, tu te dis bon bah top, je vais faire des économies, je vais baisser la masse salariale, je vais lancer les jeunes, je vais pas recruter. Mais t'es pas sûr que ça tient. Tout ça en Ligue 2. Donc si Saint-Etienne descend, t'es pas sûr de les revoir dans les 2-3 années qui suivent.
Surtout qu'il y a la différence d'un club comme 3. Les Stack 3 est à un budget prévisionnel qui est basé justement pour faire l'ascenseur. Regardez, en général, quand 3 descend, 3 remonte quasiment aussitôt.
Ça fait des saisons que tout le monde dit que 3 est trop fort pour la Ligue 2, mais pas assez fort
mais
pour la Ligue 1.
Mais c'est leur manière de.
Et
Saint-Etienne n'est pas prêt. Rappelez-vous, alors Monaco était remonté parce que voilà, les investisseurs sont arrivés, mais Monaco n'était pas prêt non plus, on l'a pas vu venir. Lens. Bon, là, ça va mieux depuis deux saisons. C'était pareil, ça a été dur pour Lens de repartir. Mmh. C'est limite quelque part plus compliqué pour les gros cylindrés qui ne sont pas préparés que des clubs comme Troyes, qui pour moi l'un des bels exemples. Peut-être que Troyes va rester en Ligue 1, mais je pense que dans les 3 ans, Troyes redescendra, mais remontera aussitôt.
Et puis descendre en Ligue 2 aussi, ça veut dire des joueurs qui partiront, parce que beaucoup de joueurs n'accepteront pas de jouer en Ligue 2, donc leur objectif, ce sera de partir ailleurs. Donc voilà, déjà, si Saint-Etienne n'a pas recruté, ils ne recruteront pas. Descendre en Ligue 2, perdre des joueurs, c'est encore une autre histoire. Donc s'ils descendent en Ligue 2 pour remonter en Ligue 1, franchement, ça sera très, très, très difficile.
Après, l'avantage qu'ils ont, un club comme ça, j'espère vraiment pas. On est encore début de saison, rien n'est fait. Quand t'as des clubs comme la SSE qui descendent, ils bénéficient quand même, tu sais, de cette popularité de joueurs qui aimeraient, qui sont quand même motivés à l'idée de refaire remonter le club, etc. Mais l'environnement, en ce moment, il est un peu pourri. Là. Il est un peu pourri.
Tu as Fala qui dit, regardez, Auxerre a galéré pour remonter. Il a totalement raison.
Il y a plein de clubs qui galèrent, bien évidemment.
C'est un club historique de Ligue 1. Il est descendu, on l'a plus jamais revu.
Ouais. C'est sûr. Non, bien, en tout
ça
cas.
Peut être la bonne saison de la GIA par contre. Ils sont pas mal là.
Ils sont bien. Sedan, on les a oubliés aussi.
Comment?
Sedan.
Sedan, ouais.
Ouais.
Enfin bref, on va s'attarder dans cette dernière partie d'émission sur le cas des hommes de Pep Guardiola, sans oublier aussi le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. À de suite.
Time Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport, toujours en compagnie de notre consultante Alison, Samir, le coach Tolé et sans oublier Viknesh. Allez, place au sujet du football anglais.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, en tout cas, il sort et il nous dit que Jürgen Klopp m'a aidé à devenir meilleur entraîneur. Eh oui, 7 jours de folie, Chelsea, le Paris Saint-Germain, mais aussi ce week-end, Liverpool qui l'attendent, lui et ses hommes, qui est Pep Guardiola, messieurs, dames, Alisson, et oui, Viknesh. Allô, Viknesh.
Bah, Manchester City, bah, c'est bien, là, ça nous donne 3 beaux matchs très spectaculaires. Bon, pour les spectateurs, c'est bien, ça fait du bien aux yeux, ça nous donne du plaisir. Bah, après, oui, en tant qu'entraîneur, bah, c'est bien aussi, je pense. Bah, comme il a dit, bah, après, t'as des bonnes équipes contre qui tu joues.
Ouais, c'est ça, là, parce qu'ils ont remporté, ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain, c'est pour ça que tu m'envoies c'est bien.
Non, pas
ouais, du tout. Ah, ouais, moi, ça déjà, serait autre chose, tu vas voir.
Déjà,
ouais.
Ça me fait mal au cœur parce qu'on a parlé de Saint-Etienne.
Aïe, aïe,
donc
aïe.
Voilà. Et du coup, pour parler de Guardiola, là, oui, Chelsea, c'était un beau match, ils ont réussi à gagner. Malheureusement, depuis les 3 derniers matchs, il avait perdu Pep Guardiola contre Tourelle. Donc là, c'est une bonne chose. Contre Paris, ils ont perdu. Mais bon, franchement, ils auraient pu gagner aussi parce qu'ils ont bien dominé le match. Ils ont eu des occasions, mine de rien. C'était pas mal, même s'il y a eu des moments, c'était un peu délicat quand même. Et là, contre Liverpool, bien sûr que Klopp a fait grandir Guardiola parce que ça reste des grands entraîneurs. Et quand tu affrontes un grand entraîneur, il faut trouver des techniques, il faut mettre en place des stratégies pour essayer de le battre. Et du coup, bon, on sait que Liverpool a été champion il y a 2 ans. Donc City a remporté le titre l'année dernière, a récupéré son trône. Donc ça donne de la motivation. Et Guardiola, on connaît sa philosophie, on sait qu'il va avoir la balle tout le temps. Mais mine de rien, contre une équipe contre Klopp ou d'autres, il doit un peu modifier, mine de rien, même si lui, il ne le fait pas tant que ça. Mais aussi, City a un effectif digne de ce nom. Ils ont pas mal de joueurs. Donc 3 matchs en 7 jours, c'est pas grave. Ils peuvent se permettre de faire tourner les joueurs. Là, on a vu Foden qui est rentré le dernier match, Jesus qui aurait pu aussi. Donc on a pas mal de joueurs à City, même si bon, Benjamin Mendy sera pas là pas pour très très longtemps. Mais voilà, il y a pas mal de joueurs à City. Donc ils peuvent se permettre et c'est une grande équipe. Et c'est ça qui fait que City peut faire vibrer et donne du plaisir, c'est d'avoir des grands matchs tout le temps.
Quand tu dis qu'il ne fait pas tourner, tu parles de Guardiola ou de Klopp?
Non, et qu'il pourrait faire tourner justement Guardiola, il peut se permettre de faire tourner parce qu'il a l'effectif pour et il a pas mal de joueurs, il est très bon joueur.
T'avais une interview justement de Gabriel Jesus, alors juste avant le match justement contre Chelsea, où il te montrait que t'avais, je crois de mémoire, 10 ou 11 buteurs différents dans l'équipe à Manchester City.
Ouais,
et il disait en direct à la télévision comme quoi la qualité de Manchester City, c'est du défenseur central jusqu'à la attaquant, tout le monde a la qualité pour marquer des buts. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a 10-11 buteurs différents. Et Guardiola, justement, son arme à lui, alors ça peut être aussi une faiblesse, hein, on l'a vu de temps en temps dans les matchs importants, à confrontation directe notamment, mais son arme, c'est de faire justement tourner son effectif tout le temps pour concerner tous les joueurs.
Ouais.
Donc je pense que pour lui, jouer tous les 3 jours, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Bon, après il a perdu contre le Paris Saint-Germain, mais je pense que ça va pas
ça
se faire oublier. Ça fait partie du football et ce qui est bien avec Guardiola, il se régénère tout le temps, il va apprendre des défaites.
C'est sûr, le coach Tolé, Guardiola, les hommes.
C'est intéressant ce que dit Guardiola en disant que Klopp lui a permis de progresser. Ça veut dire que les mecs au-delà des choix tactiques, stratégiques, s'intéressent aussi à leur gestion d'hommes. Il y a tellement de petites choses qu'on ne voit pas. Et en fait, l'entendre dire ça, alors que bon, il est considéré comme l'un des 2-3 meilleurs techniciens, montre que voilà, tu fais partie des meilleurs, mais t'as toujours à apprendre. Mais bon, après voilà, on a rien. C'est que du bonheur d'avoir ce type de match avec ce type de technicien.
Oui, Alisson.
L'équipe de Pep Guardiola, de toute façon, est taillée pour les grandes rencontres, est taillée pour les grandes compétitions. Même si effectivement il y a eu la défaite contre Paris Saint-Germain, je suis pas d'accord avec Viknesh qui dit qu'ils auraient pu gagner. Je pense que le Paris Saint-Germain a été au-dessus quand ils avaient besoin d'être au-dessus. Voilà pourquoi ils ont gagné 2-0. Mais voilà, je pense que Guardiola, il est dans une perpétuelle quête de perfection, parce que je pense qu'il lui manque ce petit quelque chose pour faire basculer City au même titre que les grandes sœurs de son FC Barcelone. Voilà, je pense qu'il lui manque quelque chose, peut-être trouver un numéro 9, éventuellement être plus solide en défense. Voilà, quand système de jeu, tout ça, il maîtrise, changer de tactique, passer du 4-3-3 ou un autre système de jeu, ça il maîtrise. Et la gestion de l'homme, je pense qu'il maîtrise. Faire tourner son effectif, il maîtrise. Mais voilà, le fait qu'il y ait un club qui est un gagnant en face fait que il a envie de se challenger et basculer pour définitivement éventuellement être le meilleur.
Je suis presque d'accord avec tout ce que tu viens de dire, sauf sur un point, sur la gestion.
Allez, pourquoi?
De l'homme. Pour avoir eu la chance d'interviewer des joueurs qu'il a eu, tu vois, et justement ils vont tous te dire, et c'est des interviews qui sont encore visibles, hein, que tu peux regarder, ils vont tous te dire que justement c'est peut-être le point sur lequel il pêche, parce que lui ce qu'il veut,
Guardiola
ouais. Ce qu'il veut, c'est gagner. Souvent les retours que j'ai eus, c'est que quand il gagne, il faut absolument que le gagnant ce soit lui, c'est-à-dire que c'est grâce à lui. Quand tu dis qu'il change tout le temps de système, etc., c'est vrai, ça vient de lui, et c'est pour qu'on dise on a gagné grâce à justement ce qu'il invente dans le football, parce que tactiquement tu n'as rien à lui apprendre. Guardiola, c'est un génie tactiquement, il est très très fort. Par contre, dans la gestion de l'homme, je peux te faire une liste de plus de 10 joueurs qui se sont plaints de lui, et dans tous les clubs par lesquels il est passé. Donc c'est peut-être des choses qu'on va pas lire dans la presse, parce qu'un joueur qui est encore sous son aile, il va pas te faire une interview en direct et te dire mon coach c'est de la merde, etc. Il va pas te le dire. Mais ça sort tout le temps.
Ribéry,
et ce petit truc,
ouais.
Et ce petit truc qui fait que peut-être il gagne pas encore, c'est peut-être ça. On le sait pas parce que c'est des secrets de vestiaire, mais peut-être qu'il y a encore des joueurs qui sont en direct frustrés par ce qu'il leur fait, par la gestion.
On a eu des réactions, Samir. Peut-être de nombreux d'auditrices, d'auditeurs sur les réseaux sociaux, notamment Guardiola ne gagnera peut-être plus Alisson cette fameuse Champions League. Ah. Peut-être le train est passé pour lui. Oui. Non. Le wagon est beaucoup trop loin. Selon certains, il y en a qui le pensent.
Il a été quand même en finale l'année dernière. Ça ne s'est pas joué à grand-chose pour que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Il a quand même un effectif pléthorique, l'un des meilleurs d'Europe. Il a un banc, il a une équipe A, il a une équipe B, ouais. Il a une équipe C et demi. Donc voilà, je pense qu'il a l'effectif pour. Tactiquement, il sait de quoi il parle. Et si effectivement, il progresse peut-être dans quelques domaines, c'est sûr qu'il la gagnera. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après en tout cas, c'est sûr.
Coach Tollet, avant le dernier sujet de cette émission.
C'est qu'il ne reste pas sur 4 huitièmes de finale, il reste sur une finale de Ligue des Champions perdu, donc non, enfin dire ça. Après t'as un vainqueur chaque année, hein, t'as 3-4 grosses équipes, donc si on attend que chacun son tour gagne la Ligue des Champions, bah tu vas attendre tous les 5 ans minimum. Donc après, bah c'est le jeu aussi, et heureusement que le meilleur coach ou le meilleur effectif ne gagne pas tout le temps. Et le football nous permet en tout cas de vivre ça, donc c'est cool.
Ouais. Allez, la dernière rubrique de cette émission, excusez-moi.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, Didier Deschamps, Alisson Vicnesh, le coach Tollet et Samir pour m'accompagner, de plus en plus décrié. Oui, il est même critiqué par les pairs du football, que ce soit français ou même à l'échelle internationale. Samir, allez, il est le premier à réagir.
Allez, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu as gagné la Coupe du Monde et que tu es critiqué, ouais. Alors que tu as eu la Coupe du Monde, il n'y a plus rien qui est surprenant derrière. Alors évidemment, aussi, si tu vas moins bien jouer, moins gagner. Faut t'attendre à des critiques, hein, ça c'est une certitude. Et puis voilà, il y a une espèce de
les choix, la sélection, Mandala, pas là, d'autres joueurs.
C'est ça. Il y a une espèce de
d'autre part.
Il y a une espèce d'opinion publique qui est tout le temps en contradiction en France. En plus aujourd'hui, c'est l'ère de Twitter, les réseaux sociaux, etc. Donc tout le monde ramène son petit grain de sel. Il y a eu l'épopée Benzema. L'époque où Benzema n'était pas en équipe de France, tout le monde a dit c'est un scandale, c'est n'importe quoi, faut qu'il revienne. Et limite, alors qu'en réalité il n'y avait pas de guéguerre Benzema-Giroud, mais limite tout le monde a commencé à prendre le parti de Benzema. Benzema aujourd'hui il est là, c'est Giroud qu'on prend plus. Et là je commence à voir plein de comptes, même des comptes un peu importants on va dire, où les gens ils disent on respecte pas Giroud, il a gagné telle chose. J'ai l'impression que l'absent aujourd'hui en équipe de France, il commence à plaire, et forcément ça retombe sur qui ? Sur le sélectionneur. Donc je vais te dire, à partir du moment où tu as gagné la Coupe du Monde, attends-toi à recevoir des critiques. Et puis bon, il n'est pas à sa première année d'expérience en tant que de coach et sélectionneur. Donc j'ai envie de te dire, je pense que Didier Deschamps est calibré contre ça.
Ouais, on avait eu pas mal de réactions, notamment Nassera, Abdel, qui l'avait dit, et sans oublier Mili, le coach Tolé, ouais, justement.
Alors, je suis carrément d'accord avec Samir. Et puis moi, je vais prendre un autre angle. Quand ça fait 9 ans que t'es à un poste, humainement, t'as envie de changement, t'as besoin de changement. Et c'est vrai que, bah, comme l'a dit Samir, critiquer, même en ayant gagné la Coupe du Monde, on peut me parler de jeu. Moi, j'ai toujours dit que, à part peut-être la génération Platini en 84 et la génération Zidane Euro 2000, t'as jamais eu vraiment de philosophie en France, équipe de France, de jeu. Enfin, pour moi, ça n'a jamais existé. Quand on parle de philosophie, moi, je te parle de 10, 15, 20 ans. Je te parle pas de 2, 3 ans où d'un coup, t'as une génération donc on doit superment bien jouer. Force est de constater que là, l'euro a été délicat. Donc forcément, bah plus de critiques. Il y a rien de... Enfin, pour moi, c'est assez logique, même si tout n'est pas justifié. Mais humainement, t'as toujours besoin de voir autre chose. Donc forcément, on attend limite que l'équipe de France se casse sa gueule et
qu'elle soit championne encore une fois.
En dehors de la non-sélection de Giroud, je vais pas parler de ça pour mon temps de parole. Mais par contre, pour les autres, moi, ça me surprend pas. T'avais un effectif de ouf à l'Euro. Tu n'as pas gagné, tu t'es fait sortir par la Suisse. D'accord? Derrière, t'es obligé d'envoyer un message. Si tu repars avec le même effectif, t'envoies quoi comme message aux autres pour les stimuler, pour avoir la chance un jour d'être sélectionné? Donc pour moi, qu'ils fassent le test de mettre des Veretout, de mettre des Guendouzi, ce genre de joueurs-là, ça permet justement à montrer aux joueurs qui sont d'habitude titulaires indiscutables de leur montrer qu'il y a tout le monde qui peut sauter. Ça permet de maintenir les autres en concurrence pour espérer être un jour justement appelé en équipe de France.
Ouais.
Et pour moi, il n'y a rien de choquant. Par contre, il l'a bien montré avec Kamavinga, avec Oussem Aouar. Si tu ne fais pas l'affaire, tu vas dégager et c'est tout, quoi.
C'est ça. Viknesh, Alisson.
Bah après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a toujours des choses à dire par rapport à Deschamps. Que l'on gagne, que l'on perde, on a toujours des choses à dire. Et du coup, de toute façon, même quand on a été champion du monde, on a critiqué le jeu, on a critiqué le fait qu'il n'y avait pas Benzema. Et là, du coup, on n'a pas fait une bonne compétition à l'Euro. Donc, raison de plus pour critiquer Deschamps. Ouais. Mais lui, il a la bouteille, il a assez de l'expérience. Même si je pense qu'humainement, ça doit faire mal quand même de prendre toujours des critiques, toujours des choses, des moqueries. Enfin, à force de faire, c'est épuisant pour lui. Bah, je pense, oui. Enfin, ça reste un humain malgré tout, mine de rien. Donc, je pense qu'il a un cœur et du coup, c'est, voilà, ça doit faire mal parfois. Mais bon, c'est bientôt la fin peut-être pour lui. Mais oui.
T'as envie de lui caresser les cheveux?
Non, mais la réalité, c'est que
je pense que ces gens-là ne regardent même pas ce qui se passe.
Oui.
Ils sont tellement concentrés sur leur objectif qu'ils ont autre chose à faire. Ouais. Mais il peut lui caresser les cheveux s'il veut.
Oui, après, il est dans son monde, Deschamps.
Je comprends les critiques sur Didier Deschamps. En tout cas, là, sa liste, je la trouve un peu plus cohérente que celle de l'Euro, parce que j'avais été très dur avec lui à l'Euro, parce que je voyais venir la catastrophe. J'ai une boule de cristal, Madame Irma.
Il y en a beaucoup qui ont des boules de cristal dans cette émission. Justement, il doit nous écouter.
40 boules de cristal.
Il y en a qui lui demandent qui remportera les présidentielles en 2022. Il n'a pas donné encore la réponse.
Moi, je veux le dire, je l'avais dit, il le sait.
Vas-y, Alisson.
Mais en tout cas, c'est j'ai perdu le fil de mes idées, du coup. Mais je comprends, je comprends
tu
tout à fait.
Cet
effectif est cohérent, mais on sait très bien que des joueurs ne joueront pas, déjà, pour commencer. Même s'ils ont été appelés, ils ne joueront pas. Et quand on connaît la philosophie de Didier Deschamps, on sait que c'est quelqu'un d'un peu têtu, même si, effectivement, pendant l'Euro, il a été obligé, avec l'intégration de Karim Benzema, de changer un peu son système de jeu. On sait que c'est quelqu'un un peu à la Tuchel. C'est-à-dire qu'il mourra avec ses idées. Et donc, on sait ce qu'il va faire avec cet effectif-là. D'où les critiques. C'est que même si, effectivement, il y a des nouveaux joueurs, même si, effectivement, il nous dit qu'il a envie de changer, même si, effectivement, il a essayé de changer, il reviendra toujours à ses fondamentaux. Donc même si il y a de la nouveauté, on sait ce que Didier Deschamps va faire. Et voilà pourquoi on anticipe un peu les critiques sur cette liste, sur la Ligue des Nations qui va venir, sur la Coupe du Monde qui viendra. Donc moi, je trouve totalement justifié ces critiques.
Le coach Tolé, Viknesh, avant de terminer.
Bah après, ouais. Là oui, on est content parce que la liste elle est sortie, il y a des bons joueurs, il y a Hernandez, Verretto, Guendouzi, etc. Là on est content. Mais après, à la fin de chaque match, ouais, bah ça c'est content, ça c'est bien. En plus, les deux frères Théo Hernandez et Lucas Hernandez, en plus ils jouent dans leur club, donc ça fait plaisir. Et on les attendait depuis longtemps. Mais après,
ils attendaient surtout à l'Euro.
Oui, mais bon, on les attendait. Il y en a plein qu'on attendait à l'Euro aussi. Mais le problème c'est qu'on les a pas vus. Et là, ce sera pareil après les matchs, parce que là on va voir les matchs et on sera triste parce qu'on va pas faire des bons matchs, on va pas faire des bonnes prestations et on va encore retomber sur les joueurs et Deschamps comme d'habitude en fait. Malgré tous les joueurs que l'on puisse avoir sur le terrain, la philosophie de Deschamps, comme a dit Alisson, ça reste la même chose. Donc ça, ça changera pas. Donc à la fin, on sera encore triste. On va encore dire, ouais, il a pas pris les bonnes décisions. On n'a pas fait du bon jeu.
Il a pas fait les changements assez tôt.
Il a pas fait les changements.
Il ne perd pas.
C'est ça.
Mais ouais, mais il perd pas. Enfin, c'est vrai qu'il ne fait pas rêver, mais il ne perd pas. Hein.
Non, mais c'est véridique. On ne perd pas, mais on ne gagne pas non plus.
C'est vrai, mais il ne perd pas. C'est vrai que de toute manière, on est tous d'accord. Lorsqu'on voit même la liste, les listes en général de Deschamps, qu'on les critique ou pas, il y a tellement de qualité qu'on s'attend à avoir du beau jeu.
Oui. Mais ça, la liste, on est content. Après,
on le sait.
Et puis on a les joueurs pour. C'est ça le truc. Ouais, contrairement
c'est
à certaines, on a vraiment un effectif pour jouer au ballon. Et malheureusement, ce n'est pas philosophie de Didier Deschamps d'aller jouer au ballon. Lui, on le sait, c'est une philosophie défensive qui fait gagner, certes, mais qui fait pas rêver.
Ouais. Mais tu sais, souvent, on entend le nom de Zidane.
Oui.
Alors, moi, je veux bien. Il y a aucun problème. Hein. Mais Zidane n'a pas de. Est-ce qu'il y a une vraie philosophie de jeu? Moi, je suis pas sûr. Par contre, il a cette capacité à transcender, je pense, les hommes. Il apportera peut-être autre chose s'il est amené à être sélectionneur. Mais on parle de jeu. Zidane, pour moi, en termes de jeu, c'est dans ce cas-là, c'est pas le profil.
Comme d'Allegri, alors.
Je dis pas que c'est pas attention, non, hein. Mais on dit oui, le jeu de Deschamps. Zidane. Moi, quand j'ai vu le Real Madrid de Zidane, solide avec des gars qui sont prêts à mourir. Ils l'ont démontré pendant 3-4 saisons. Mais au niveau du jeu. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention quand on parle de jeu.
Ouais.
Et quel sélectionneur pratique du beau jeu? Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Hein.
Ouais.
Comment
on appelle Laurent Blanc.
Bah, c'était pas mal.
C'est vrai que Laurent Blanc, quand tu prends Bordeaux,
sympa,
le Bordeaux
Paris,
de Laurent Blanc, le PSG de Laurent Blanc, et même l'équipe de France qui se fait éliminer à l'Euro 2012, il y avait un début de quelque chose.
On le rappelle, c'est la 9e journée de ces 38 journées de Ligue 1 Uber Eats. Ce soir, 21h, du côté de Bollard, Lens face à Reims. Allez, le pronostic avec Viknesh.
Ah, Lens-Reims, je dirais 2-1 pour Lens, but de Kakuta.
Ouais, j'allais pas te demander le match pour le Paris Saint-Germain, hein, t'inquiète pas. Le coach étoilé. Ouais.
2-0 pour Lens.
2-0, Alisson.
2-0 pour Lens.
Et Samir.
2-1 pour Lens.
Ah, voilà.
Un grand merci à Alisson et aussi à Samir, au coach Tolé, à Viknesh, de m'avoir accompagné. Merci, on se retrouve dès lundi prochain. Un grand merci aussi à vous, les auditrices, les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.